Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. On commence comme toujours par l'incipit, la première phrase d'un roman. J'ai choisi la première phrase de Salammbô de Gustave Flaubert. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. C'est assez basique finalement, mais avec les mots Mégara, Carthage et Amilcar, on commence déjà à voyager, je trouve. Des livres, nous en découvrirons beaucoup d'autres chez Mathilda May tout à l'heure. Nous irons visiter sa bibliothèque. Les libraires sont là pour les bonnes idées de lecture et nous terminerons évidemment avec la chronique jeunesse de Victor Dolande. Mais d'abord, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Caro.
C'est son quatrième roman, ancien directeur de l'agence Kappa. C'est un aventurier. D'ailleurs, il a un look d'aventurier là, avec une chemise de cow-boy et des Doc Martens rouges. Et il a décidé d'utiliser ses pérégrinations pour construire ses romans. Cette fois, nous sommes en Amazonie. Un homme d'affaires survole la canopée à bord d'un petit avion. C'est lui qui pilote. En bas vivent les Yaku, une tribu complètement coupée du reste de la civilisation. Les deux mondes vont se rencontrer brutalement, puisque Gabriel, le PDG, se crache et il est récupéré par les Yaku. Bonjour Pascal Manoukian.
Bonjour.
Le roman s'appelle Le Cercle des Hommes, c'est au seuil. On va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est que le cercle ?
Alors le cercle, pour les Indiens, c'est le territoire à l'intérieur duquel ils nomadisent. Et c'est tout ce qu'ils connaissent du monde. Tout ce qui est à l'extérieur du cercle, ils n'ont aucune idée de ce que ça peut représenter.
C'est ça le cœur du roman, en fait. C'est pour ça que le titre est bien choisi. C'est fait qu'effectivement, et le cercle, c'est pas grand. Hein. C'est une boucle d'un fleuve, en fait.
Oui, c'est une grosse boucle de fleuve. Ça peut être un territoire qui est, on va dire, la moitié du Luxembourg, par exemple.
C'est la tribu des Yaku, complètement coupée du monde. Ça existe, ces tribus-là, qui ne connaissent rien du reste de la civilisation, du monde ?
Alors au Brésil, on dit qu'il reste encore une soixantaine de tribus, peut-être quelques milliers d'individus. Alors qu'ils savent qu'il se passe quelque chose en dehors du cercle, parce qu'il y a de plus en plus de bruit et de lumière qui ne font pas partie de la nature, mais qui ne comprennent pas exactement ce qui se passe.
On dit tribus, ils sont huit en l'espèce, la tribu qui nous
occupe. Oui, c'est des familles qui forment des clans, qui forment des tribus. C'est des familles qui nomadisent dans un même territoire, qui se séparent volontairement pour pouvoir ensuite se retrouver pour des mariages et éviter la consanguinité.
Pour éviter la consanguinité, et puis qui répondent à des règles et à des coutumes et à des mythes qui leur sont propres, en fait. Et qui ne sont pas du tout les nôtres. C'est ça ce qui est intéressant.
Oui, en fin de compte, ce sont des tribus qui vivent comme nous vivions il y a 10 000 ans.
Et on sent qu'il y a de l'enquête, que tout ne sort pas de votre imagination. Là, on l'entend d'ailleurs, vous en parlez aussi comme une sorte de récit, alors que c'est un roman. Mais vous en avez rencontré vous-même de ces tribus-là ?
Alors, il se trouve que quand j'avais 19 ans, j'ai monté une expédition à l'ancienne avec deux camarades et qu'après 6 mois de recherche et de progression en forêt, en survie totale, nous avons fait un premier contact avec une tribu au sud de la Colombie qui s'appelait les Macouré. Et donc, voilà, c'est une expérience qui m'a marqué et je me suis servi de cette expérience pour écrire ce roman.
Et ça a l'air rudimentaire comme ça, quand on parle de... On dit tribu primitive, d'ailleurs. Mais en fait, on se rend compte en vous lisant que toutes ces règles, ces traditions et ces mythes, c'est loin d'être un simple folklore. Il y a un vrai intérêt à suivre ces règles-là, ce qui leur permet de survivre, d'ailleurs.
Oui, de survivre dans un milieu hostile, de survivre en forêt et puis surtout de survivre sans laisser d'empreinte écologique. Parce que pour les Indiens et pour ces tribus, nous faisons partie de la biodiversité, ce que nous avons totalement oublié, puisqu'aujourd'hui, on regarde la nature se dégrader comme si nous n'en faisions pas partie. Or, nous faisons partie de cette biodiversité, nous l'avons oubliée. Nous avons été avant déconnectés de tout, sauf de la nature. Et on a en nous cette nostalgie-là. C'est pour ça que, par exemple, quand vous aimez vous balader en forêt ou quand j'aime m'asseoir devant un feu de cheminée, c'est quelque chose qui nous reste. On a tous en nous quelque chose des Yaku ou de Néandertal. C'est dans nos gènes, c'est inscrit et on a cette nostalgie-là.
Et c'est vrai que, bon, d'une certaine manière, cette tribu-là, elle n'a pas le choix puisqu'elle n'a pas connaissance du reste. Par exemple, la tribu des Yaku n'a pas de mots pour parler de la science ou du profit. Tout simplement, ça n'existe pas. En revanche, il y a 57 façons de décrire les différentes nuances de vert.
Oui, c'est-à-dire que, en fin de compte, et c'est la réalité pour le coup, pour connaître tout ce que nous connaissons aujourd'hui, pour avoir ce niveau de technologie qui d'ailleurs sans doute peut-être nous mène à notre perte, puisque nous avons beaucoup entamé la planète sur laquelle nous vivons, pour connaître ce que nous avons dû oublier tout ce qu'ils savent. Et par exemple, quand j'étais dans la tribu, moi, en 1976, et que j'expliquais aux Indiens que nous avions été sur la Lune, ils n'étaient pas du tout étonnés, parce qu'eux-mêmes vont sur la Lune, vont et reviennent de la Lune, mais sans lanceur ni fusée, par d'autres moyens.
Au-dessus de la forêt, il y a cet homme d'affaires, il est en avion, il n'est pas animé des meilleures intentions, et c'est pas une caricature, mais c'est un des stéréotypes de la civilisation moderne, en fait.
Oui, c'est-à-dire que lui, à l'inverse des Indiens, c'est un pur produit de la mondialisation. Les Indiens se connaissent tous entre eux, ils n'ont pas de mots pour dire profit argent, ils n'ont en tête que la survie du groupe, et lui c'est l'inverse. Lui n'habite nulle part, il vit dans un avion quasiment, il gère des milliers d'ouvriers sans en connaître aucun. Voilà, c'est donc ce choc-là qui va se passer dans le livre.
Un choc littéralement, puisque donc Gabriel, l'homme d'affaires, se crache sur la canopée. D'ailleurs, au moment où il va se cracher, il essaye, écrivez-vous dans le livre, d'amerrir sur la canopée, comme si le haut des arbres était une mer.
Oui, parce que vu du ciel, c'est ça, c'est un moutonnement à l'infini, vert au lieu d'être bleu.
Bon, évidemment, il n'arrive pas tout à fait à amerrir sur la canopée. Il se crache, mais bien, il est dans une sorte de coma, il est à demi-conscient. Et puis, donc, les yakous arrive sur place, il voit cette chose, en fait, quoi, qu'il ne reconnaisse pas comme un homme.
Non, parce qu'il est difforme, il est aveugle, il est amnésique, le choc a été très violent, et les yakous qui, justement, sont dans une économie de survie, avant de s'en encombrer, parce qu'il faut marcher tous les jours, vont devoir décider si c'est un homme ou un animal. Et selon leurs critères à eux, des critères que nous avons, nous, oubliés, ils penchent pour l'animal.
Pour l'animal, oui. Ils font toute une série de tests, d'ailleurs, pour savoir si c'est un homme ou un animal. Ils en concluent que c'est plutôt animal.
C'est de l'ethnologie inversée.
Voilà. Et ils le laissent dans la fosse avec les cochons sauvages.
C'est ça. Et c'est à lui qui s'est toujours, on va dire, conduit en prédateur dans sa ville industrielle, va essayer de leur prouver qu'il est un homme, qu'il est humain. Et c'est en essayant de leur prouver qu'il va le devenir pour la première fois. Et malheureusement pour lui, tous ces arguments qui lui ont servi à réussir dans la vie, sa force de persuasion, ne jouent pas là, puisque les Indiens ont une autre vision du monde.
Oui, et ça n'a l'air de rien, mais prouver qu'on est un homme, ben c'est pas si évident que ça en a l'air. On tente l'expérience dans un instant.
La voix est livre. Nicolas Carreau.
De retour dans La Voix est libre avec Pascal Manoukian pour son roman Le Cercle des Hommes au Seuil, l'histoire de Gabriel, un homme d'affaires qui, après un crash en avion, se retrouve au milieu d'une tribu de la forêt amazonienne. La tribu pense qu'il s'agit d'un animal parce qu'il ne ressemble à rien de familier. Il doit prouver qu'il est un homme et ça commence par surmonter la barrière du langage, Pascal Manoukian.
Oui, d'ailleurs, ça, c'est ce qui m'est pour le coup aussi arrivé en vrai, puisque il faut expliquer au yakou, par exemple, d'où vous venez, mais vous n'avez pas la référence de l'avion ou vous n'avez pas la référence des moyens de transport d'aujourd'hui. Donc, il faut essayer d'inventer, de traduire ça en coup de pagaie, de traduire ça en lune. Vous avez donc voyagé trois lunes uniquement à la pagaie. Donc, les Indiens vous prennent pour quelqu'un de supérieur, d'un dieu. Et puis, finalement, quand vous entamez la marche avec eux, vous sur le premier tronc vermoulu qu'il faut traverser pour traverser une rivière, vous glissez et vous tombez. Donc il y a toujours cette espèce de contraste entre ce que vous dites être et ce que finalement ils aperçoivent en vous regardant.
Mais comment on fait pour prouver qu'on est un homme? C'est absurde comme défi. C'est impossible. Si je vous le dis, c'est que je suis un homme, c'est tout.
Alors ça dépend parce qu'il y a la parole, il y a l'apparence, il y a la façon de se comporter. Enfin, nous avons des critères pour décider de ce qui est un homme qui ne sont pas les critères que nous avions quand nous vivions comme les yakous. C'est tout le livre, d'ailleurs.
Mais bien sûr, c'est en partant de cette réflexion-là, vous êtes posé vous-même la question.
Alors, en fait, le livre est venu de mon expérience avec les Indiens, qui datait de 40 ans. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir une petite fille, d'être grand-père, donc, il y a 2 ans. Et c'est en voyant le monde que nous allions laisser à cette génération que j'ai voulu créer ce choc, revenir à l'époque où nous ne laissions aucune empreinte écologique. Or, aujourd'hui, on est sans doute la première génération qui met en péril la seule planète sur laquelle on est capable de vivre.
Mais à la fois, est-ce qu'il faut souhaiter revenir à ces traditions-là ? Puisqu'il y a une forme de culture, mais l'humour est lourdingue, les rapports sociaux sont quand même assez brutaux. On n'a pas envie d'y retourner quand même.
Mais je crois qu'à une époque où par exemple, les trois quarts des grands fleuves de la planète sont sous antibiotiques, c'est-à-dire qu'il y a dans ces fleuves-là 300 fois le taux autorisé à cause de l'industrialisation, je crois qu'il est intéressant d'écouter ce que ces peuples primitifs qui ont donc survécu à tout sans entamer, on va dire, la planète, ont à nous dire, c'est-à-dire écouter un petit peu de ce que nous étions, nous, il y a 10 000 ans, puisqu'on est en train de chercher des solutions et on est en train quand même de se poser des questions sur notre survie.
Il y a aussi le rapport aux animaux qui est complètement différent.
C'est-à-dire qu'encore une fois, pour les Yaku, nous faisons partie de la biodiversité. Donc ces tribus-là ont gardé le contact avec et les végétaux et les animaux. Un contact que nous avions tous, hein, et qu'on a oublié pour devenir ce que nous sommes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on se remet à retrouver des connexions avec les arbres. Et par exemple, il est prouvé scientifiquement que enlacer des troncs d'arbres, par exemple, fait baisser
le stress,
la tension, ouais. que le chant d'oiseaux et la nature fait baisser le stress. Tout ça, ce sont des choses que nous avions en nous et que nous avons perdues. Donc je pense qu'en écoutant ce qu'ont à dire ces peuples premiers, on peut retrouver une partie de cette sagesse-là qui a fait finalement que pendant très longtemps, nous avons vécu on va dire les bénéfices de la planète sans entamer le capital. Capital que nous avons aujourd'hui quand même gravement entamé.
C'est drôle parce qu'en parlant de ça, vous aussi, comme Gabriel, vous avez le langage du mondialisé, justement.
Oui, bien sûr.
Parce malgré
que,
vous.
Malgré moi, oui. Malgré ce que j'essaye d'être.
Alors justement, on va parler un peu de ce que vous êtes, puisque vous avez eu une vie pas croyable d'aventurier, vous avez toujours, mais vous avez été routier au Panama, portier de bordel, fouilleur de tombes au Pérou, découvreur d'Indiens, donc en Colombie, serveur dans le Minnesota et déblayeur de cendres en Islande. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Alors, déblayeur de cendres en Islande, c'est parce que quand j'ai passé le bac, le lendemain, j'ai vu qu'il y avait une éruption volcanique en Islande et je me suis dit que c'était l'occasion pour moi d'aller voir ce que c'était qu'un volcan. Et du coup, je suis parti et je suis rentré beaucoup trop tard pour ensuite m'intéresser aux études. Tout était tout ce que je voulais faire. J'avais loupé les inscriptions. Donc du coup, je suis parti un an et demi en Amérique du Sud et j'ai fait un peu tous les métiers. C'est-à-dire j'ai entre autres été portier de bordel à Guayaquil parce que j'avais pas d'argent et qu'on m'a proposé ce métier-là. J'ai déchargé des camions au Panama. Enfin, j'ai un peu cherché ma voie avant de trouver le journalisme. Et c'est justement en traînant dans des endroits où il y avait beaucoup de guérillas que BFDU l'envie, on va dire, de documenter les conflits de mon siècle.
C'est un côté salaire de la peur, cette vie-là, de routier au Panama, c'est...
Oh, c'était... Je déchargeais des camions d'insecticides, hein, donc voilà, c'était...
Oui, il n'y avait pas de nitroglycérine
non,
quand même.
Il n'y avait pas de nitroglycérine.
Et puis serveur dans le Minnesota, vous êtes resté comme ça longtemps, à vous balader un peu partout dans le monde avant de devenir journaliste.
Alors c'était encore avant, quand j'ai eu 17 ans, je suis parti un an et demi dans le nord des États-Unis, dans le Minnesota, où j'ai vécu... un peu plus d'un an et demi. Et bon, comme tous les gens qui débarquent aux États-Unis, on finit par faire la vaisselle d'abord. Voilà. Et puis j'ai beaucoup aimé cet état, qui est l'état des 10 000 lacs, où j'ai beaucoup fait de canoë, pêché, parti avec des amis. Alors ça, c'est mieux passé que Délivrance, hein, je vous rassure, mais c'était un peu cette ambiance.
Délivrance de James Dickey, ouais. Qu'il faut relire, qui est l'histoire de quatre amis qui partent dans un trip sur une rivière et ça va mal se passer.
Ça va très mal se passer.
Merci Pascal Manoukian et je rappelle le titre de votre livre, Le cercle des hommes, c'est au seuil. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et dans un instant, encore des livres, c'est vous qui prenez la parole. Cette semaine, c'est Pierre qui nous appelle de Bordeaux pour nous parler de l'éducation sentimentale de Flaubert. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre.
Chaque semaine, nous évoquons un roman culte. Aujourd'hui, c'est Pierre qui nous appelle de Bordeaux pour nous parler de l'éducation sentimentale. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Vous m'avez contacté sur les réseaux sociaux en me disant « Je voudrais vous parler d'un titre trompeur, c'est l'éducation sentimentale ». Pourquoi c'est un titre trompeur et pourquoi vous aimez ce livre ?
Alors tout d'abord, c'est un titre trompeur parce que Flaubert parlait de ce roman sur rien, ce qui peut déjà interroger et intriguer le lecteur.
C'est-à-dire ?
Disons que le lecteur, s'il attend une histoire avec une trame, des aventures.
Ouais.
Or, dans l'éducation sentimentale, non, mais pas, ce n'est pas le cas. Et quand on parle d'éducation, on attend justement un apprentissage. Or là, il n'en est pas question, c'est plutôt une passion impossible. L'amour platonique entre Frédéric Moreau et Madame Arnoux.
Vous nous rappelez l'histoire, justement, Pierre ?
Alors, l'histoire se passe en 1840. Frédéric, qui est le héros, c'est un jeune homme qui est rempli de vagues ambitions littéraires et mondaines. Il monte à Paris pour faire son droit. Et en rentrant chez lui à Nogent, il va rencontrer sur un bateau Madame Arnoux. Et c'est la scène du coup de foudre. Ce fut comme une apparition. Et cette Madame Arnoux est mariée à un sombre éditeur, qui est Monsieur Arnoux. Et ce personnage féminin va hanter, fasciner, tourmenter Frédéric tout au long du roman. Et Frédéric, c'est quelqu'un qui va aller d'illusion en désillusion. Et c'est ça qui va être le moteur de la vie de Frédéric. Et un personnage qui va traverser l'histoire avec un grand H.
Pourquoi il vous a plu ce livre ? Pourquoi il faut le lire ? Pourquoi il faut le lire ?
Il faut le lire parce que c'est le contraire d'un roman entre guillemets romantique. Par exemple, si on prend dans d'autres héros comme Julien Sorel ou Fabrice Del Dongo qui vont se battre pour leurs idées, Frédéric, c'est tout le contraire. C'est un petit héros, on va dire, qui va brosser la vie, une vie ratée. Ratée du début à la fin.
Et c'est ça ce qui vous a plu ?
C'est ça qui a été le plus saisissant dans ce roman.
Et comment vous l'avez découvert, vous ?
Moi, je l'ai découvert pendant mes études littéraires en licence, notamment. Et c'est un roman que je n'avais jamais, jamais lu de Flaubert.
Merci beaucoup, Pierre.
Avec plaisir.
Europe 1.
Si vous aussi, vous voulez nous dire quel est le livre au centre de votre bibliothèque, celui que vous avez lu plusieurs fois, qui vous a marqué, qui vous a changé, que vous offrez, écrivez-nous, il existe plusieurs moyens. Envoyez-nous un mail avec votre numéro de téléphone et le livre dont vous voulez parler à l'adresse livre@europe1.fr. Sinon, un message sur la page de l'émission ou vous me contactez directement via Twitter. Nous attendons vos bonnes idées. Dans un instant, encore des livres, nous partons visiter la bibliothèque de Mathilda May avec, mais oui, une lettre manuscrite de Colette. Complètement fou.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, il est temps de quitter un peu ce studio. Deux pièces de Mathilda May sont jouées en ce moment au théâtre, Le Banquet au Théâtre de Paris, et Monsieur X avec Pierre Richard, seul en scène, qui ne dit pas un mot. C'était l'occasion de proposer à Mathilda May de nous faire visiter sa bibliothèque. Elle a accepté. Bonjour Mathilda May.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous.
Avec plaisir.
Quand je vous ai croisé à Europe 1 et que je vous ai demandé si je pouvais venir visiter votre bibliothèque, vous m'avez dit « Ah ouais, mais je ne suis pas très littéraire, je n'ai pas des masses de livres. » Et je viens de faire un petit tour dans votre appartement. Il y en a partout, en fait.
Il y en a un peu partout. Il y a un florilège de tout et n'importe quoi, parce que comme je viens d'emménager, je n'ai pas encore eu le temps de faire le tri de ce qu'on m'a offert, qui n'a aucun intérêt, ce qui compte énormément pour moi, ce que je n'ai pas encore lu. Donc, tout est mélangé. Je me suis juste dit, bon, allez, je les mets par taille pour que ce soit joli. Donc, il y a des choses qui n'ont rien à voir les unes à côté des autres.
Parce que d'habitude, dans votre ancienne bibliothèque, tout était bien rangé par genre. Comment c'était classé ?
Au moins par auteur.
D'accord.
Ah bon, je vous laisse regarder.
C'est vrai qu'il y a un peu de tout. C'est très hétéroclite. Il y a des romanciers, il y a des beaux livres, il y a des livres de plutôt développement personnel, des essais, de l'histoire. Il y a des romans aussi. Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile parce que tout est un peu mélangé. Mais ouais. J'ai remarqué quand même, d'un seul coup, là, comme ça, en faisant un tout petit tour parmi vos livres, c'est qu'il y a beaucoup de correspondances. Et notamment, là, je vois celle de Camus et Cassarès. Vous aimez particulièrement les correspondances ?
Je crois que oui. Je crois que ça donne corps. chère à des personnes qu'on peut... par exemple, Camus, alors évidemment, ses écrits sont ultra célèbres, mais le côté très intime de ces échanges, à une époque où on correspondait par courrier, je trouve que c'est très touchant de rentrer dans le ressenti intime de grands auteurs.
Alors, bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre là ? Oh là, un vieux livre 19e siècle. Alors, un vieux Lagarde et Michard, vieux manuel littéraire.
Alors, je ne sais pas d'où ça vient.
Là aussi, on a des vieilles éditions, un vieux Guy de Maupassant, Le Horla.
Ça doit être mon père qui a dû m'offrir ça pour ma culture, parce que j'en manque cruellement.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vos livres qui sont aussi des souvenirs, d'ailleurs.
Peut-être.
Qui s'attachent à quelqu'un ou à quelque chose.
Bon, bah, là, il y a oui, des livres de Jacques Attali, j'en ai pas mal.
Ah bon, pourquoi ?
Parce que je trouve cette personnalité, l'éclectisme de cette personne est assez fascinante. Et il a écrit sur des sujets très différents.
Et vous avez beaucoup de beaux livres aussi.
C'est des livres de photos. J'ai pas mal de livres de photos. Il y en a là-bas aussi, sur l'autre bibliothèque, notamment sur la danse, des photos de mouvements, des photos de lieux aussi, que je trouve très inspirants. C'est un peu la base de mes sujets de pièces. À chaque fois, c'est un lieu qui va me donner le terrain d'écriture, en fait, le point de départ.
Là, il y a un beau livre sur ouais. Les baisers. C'est ouais. Beau, ça ?
Ouais, c'est toutes sortes de baisers à travers la peinture. Et à travers les époques, c'est assez beau.
C'est indépassable, le baiser, quand même.
C'est la base.
C'est la base. Vous vous souvenez de votre premier baiser ?
Ah ouais, dégueu.
Ah oui ?
Horrible.
C'est-à-dire ?
Ah bah, je savais pas qu'il y a eu une langue qui allait se fourrer à un moment donné. Et ça a été la mauvaise surprise. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait ?
Donc c'est un mauvais souvenir ou c'est un souvenir
charmant ?
C'est
pas un bon souvenir. Après, j'ai évolué, heureusement, pour moi.
Et vous m'avez dit aussi que vous aviez un rapport à la littérature un peu particulier.
Oui, parce que j'ai un père auteur pour qui les mots, la langue française est essentielle, fondatrice même. Et je crois que j'ai fait une sorte de rejet. Et c'est pas pour rien que
d'opposition.
J'écris. Ou de rejet, où je me sentais pas à la hauteur. J'ai échoué dans ma scolarité de façon assez fracassante. Et du coup, bon, j'écris des spectacles sans parole. C'est pas pour rien, je pense. Et voilà, j'aime beaucoup... Là, il y a un livre de Sempé, et j'en ai quelques-uns, je ne sais plus.
Ah oui, c'est l'image.
Et Sempé me bouleverse.
Pourquoi Sempé ? C'est sa poésie, c'est son humour, c'est les deux ?
Sempé, c'est son rapport à la solitude qui me touche beaucoup. Il y a toujours une petite personne dans un immense monde, ou dans son monde. Là, ce petit livre-là, ce sont des illustrations autour de la musique. C'est un passionné de musique et donc il a dessiné des musiciens dans toutes sortes de situations. Et ils sont seuls et ils ne sont jamais glauques. Ils sont seuls et drôles. Et je pense que voilà, mon spectacle qui se joue avec Pierre Richard en ce moment est très inspiré de Sempé.
Il est seul d'ailleurs sur la scène.
Il est seul.
Mais vous identifiez à ça, le musicien seul comme ça ?
Bah, l'artiste, par définition, l'inspiration ne parvient que dans une forme d'isolement.
J'ai pas dit, mais évidemment, il y a des guitares partout.
Ah, ça,
là,
c'est
il y en a
fils.
Une qui est posée sur le canapé.
Ouais.
Vous en jouez ?
Bon, non.
Non ?
Non. Non. En revanche, si vous voulez, on peut aller par là.
Une autre
il y a d'autres livres dans le désordre, bien sûr.
Ah là, on est quoi ? C'est votre bureau, ça ?
Ouais, ça, c'est mon bureau.
Oula, il y a le manuscrit de Monsieur X là qui est posé.
Ouais.
C'est votre pièce qui se joue en ce moment avec Pierre Richard.
Ouais.
On peut regarder ?
Ouais, ouvrez. Et là, vous allez voir à quel point tout est décrit.
Ouais, c'est super.
Voilà, ça commence sur le lit, une place. Un homme dort profondément. Le jour se lève, un rayon de soleil apparaît. Le son est marqué entre parenthèses.
Oui, parce que c'est une pièce dans laquelle il n'y a pas de...
Il n'y a pas de parole, mais il y a beaucoup
quoi.
De sons.
Et donc, il a fallu tout noter.
Tout est écrit, les déplacements, le sens, l'intention, le geste.
Vous entendiez en écrivant ?
Oui, ouais, ouais, je fonctionne beaucoup par l'oreille.
C'est émouvant, les manuscrits, comme ça, parce que c'est relié comme un devoir de mémoire d'université, quoi, avec le petit plastique et tout.
Ouais.
Ça a l'air de rien, en fait. C'est ça ce qui est beau, finalement.
Oui, mais alors, c'est porteur de tellement de visions. C'est-à-dire que moi, quand j'écris, je n'ai pas l'impression d'inventer, j'ai l'impression de voir quelque chose qui se déroule sous mes yeux et je dois vite traduire hein, ce que je vois.
Et alors là, il y en a un autre ?
Ça, c'est le scénario d'un film, un unitaire pour TF1. Que je vais tourner.
On peut dire le titre ou pas ?
Coup de foudre à Bangkok.
Épisode 2.
Voilà.
Et vous faites quoi dedans ?
Je fais une méchante. En ce moment, on me donne beaucoup des rôles de méchante.
Ah, donc il y a vos répliques et tout ça là-dedans ?
Ouais. mais j'ai pas encore bien, je me suis pas plongée dedans.
Ah, ça c'est un vrai script. Vous vous appelez comment?
Je crois que je m'appelle Sandrine.
Sandrine.
Oui.
Comment ça se passe? Vous avez ça, vous êtes chez vous, et puis vous vous entraînez toute seule au début?
Ouais.
Vous déclamez comme ça dans votre appartement?
Oui, je lis à voix haute. Je réadapte aussi un peu pour que le parler soit... Je me l'approprie, quoi.
Benjamin, deux secondes, je parle avec Laura. Tu disais que tu avais revu les fondations?
Ah, vous le faites bien, vous voulez pas le faire à la place?
Ouais.
Allez-y, quoi, ça va. Allez, tournage à Bangkok, sympa.
Il y a toute la collection au-dessus des livres d'Amélie Nothomb. Enfin, il y en a quelques-uns.
Ah oui, il y en a quelques-uns, là, côte à côte.
C'est une auteure que vous suivez depuis le début.
Moi, je l'aime bien. Ouais, je la trouve vive, drôle. Bon, elle est surprenante. Et ici, il y a les histoires du petit Nicolas qui m'avait beaucoup, beaucoup plu quand j'étais enfant. J'avais beaucoup ri.
Et vous les relisez ou vous le gardez là parce que vous l'avez en mémoire?
Je l'ai en mémoire, mais il faudrait que je le relise un jour. Ça peut m'amuser. Psychologie de la peur, c'est très intéressant. Ça, c'est un essai
de Christophe André. Voilà. Il y a beaucoup de livres de Christophe André.
Oui, je trouve que... Bon, je me méfie toujours des gens un peu trop médiatiques parce que j'ai l'impression que ça endort un peu d'être célèbre. En revanche, lui, je trouve très pointu et dans une quête quand même d'apaisement. Et la psychologie de la peur, c'est absolument fascinant de comprendre la mécanique des blocages, finalement, de ce qui empêche le mouvement. Et c'est ce que j'ai essayé de raconter aussi dans VO et de transmettre. C'est le goût du mouvement, justement.
Et lui, c'est un spécialiste de la méditation aussi.
Aussi, ouais.
Vous méditez?
Non, mais tout ce travail autour de... des projets que j'écris, pour accéder à l'inspiration et à l'intimité, il faut d'une certaine manière accepter le vide, l'apprivoiser et en faire un allié. Et se plonger dans cet abîme du vide en ayant confiance en l'idée que de ce vide va naître quelque chose, c'est une forme de méditation, je pense. En tout cas, c'est un travail sur soi.
Pendant que vous parlez, je suis attiré là par cette lettre qui est encadrée.
Ça, c'est
une lettre sur un feuillet bleu.
Ça, c'est fantastique.
Qu'est-ce que c'est?
Vous reconnaissez le feuillet bleu? Ça vous dit rien?
Je sais pas, je dirais Alexandre Dumas, mais ce serait trop beau.
Non, le bleu, c'est Colette. Colette n'écrivait que sur
aussi,
le bleu.
D'accord. Et vous avez les œuvres complètes de Colette juste au-dessus. Ouais. Mais alors donc, c'est un manuscrit de Colette?
C'est un manuscrit de Colette qui m'a été offert par un ex, qui était super sympa. Et qui m'a trouvé cette lettre originale, qui est magnifique.
Ça a été écrit à Saint-Tropez.
Ouais.
À la treille.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'elle dit?
Pardonne-moi donc, en haut et en bas, en long et en large, tu ne me blâmeras jamais autant que je me blâme. Déjà, la première phrase est dingue.
C'est une lettre de Colette, quoi.
Voilà. Bon. Et j'ai eu une passion pour Colette. Vous me demandiez quel livre, éventuellement, j'emmènerais dans une île déserte. Probablement un livre de Colette. D'une grande clarté, simplicité, quelque chose de très droit et direct dans son écriture. Vraiment, elle était dédiée à donner à voir plus qu'à sa propre écriture. Il y avait quelque chose de très sans fioriture que j'adore.
Et vous connaissez l'histoire de cette lettre ou pas?
Non, je ne connais pas l'histoire de cette lettre, mais quand on la lit entièrement, on comprend ce qu'elle a voulu signifier. Elle parle de sa fille... qui va épouser un charmant brave homme. Ils ne sont riches ni l'un ni l'autre. C'est très gentil et très spontané.
Ça, ça peut être le début d'une histoire, une lettre comme ça.
C'est vrai, c'est vrai.
Et il y a aussi pas mal de livres de développement personnel.
Alors, je n'aime pas trop ce terme-là.
Et il a été un peu galvaudé. Maintenant.
Oui, parce que c'est devenu un gros commerce, quoi. Alors, pour être bien, voilà ma recette et tout. Donc, moi, je suis un peu allergique à ça, à la base. En revanche, il y en a quand même deux dans cette lignée de développement personnel qui sont pour moi absolument essentiels. Le premier, c'est Le chemin le moins fréquenté de Scott Peck. Comment dire, c'est un guide sur l'autonomie et la prise de conscience de sa propre valeur, sa propre richesse et comment accéder à ce mouvement. Et vraiment, ce livre a été salutaire. Il m'a encouragée à aller jusqu'à m'isoler et à rompre même avec certains liens pour garder toujours ce mouvement. Parce qu'évidemment, quand on se met en mouvement, on laisse certaines personnes de son entourage qui, elles, n'ont pas décidé de se mettre en mouvement. Et ça fait que, bon, il y a beaucoup de ruptures et on se retrouve un peu seul sur ce chemin. Et c'est ce qu'il explique et que je trouve totalement extraordinaire. Alors, il a, bon, c'est un croyant fervent, mais donc moi, je ne suis pas croyante. En revanche, ce livre m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée.
Le chemin le moins fréquenté de Scott Peck, sous-titré quand même Les leçons fondamentales de l'existence. C'est ambitieux.
Pas rien.
Et alors, deuxième grand livre.
Le livre qui a vraiment, vraiment compté pour moi et que je pense que tout le monde devrait lire. Alors, c'est le livre de Julia Cameron. Julia Cameron est, entre autres, bon, la femme de Scorsese. Et elle a enseigné pendant plus de 30 ans aux États-Unis. Comment, je ne sais pas si on peut dire qu'elle enseigne la créativité, mais elle a aidé de nombreux grands réalisateurs à être créatifs. Pas seulement les artistes, d'ailleurs, des grands entrepreneurs, des grands hommes d'affaires, à trouver leur propre créativité. Et elle a tellement eu de succès pendant toutes ces années, elle est devenue tellement incontournable dans le domaine que quelqu'un lui a dit « Écrivez ce livre et qu'il puisse traverser les frontières et être traduit dans d'autres langues ». Et je l'ai lu.
Alors, libérer le titre, votre créativité.
Ouais, mais je voulais, avant de le dire le titre, je voulais prévenir que c'est un titre de merde. Parce que là, vraiment, on croit qu'on est dans un truc de développement personnel à deux balles. Libérer votre créativité, c'est vraiment craignos.
Et à la fois, mais ça a l'air d'être ça, quand même, l'idée.
Mais c'est quand même l'idée. Et c'est un livre qui ne se lit pas, c'est un livre qui se fait. À savoir que ce sont des exercices à faire sans réfléchir, sans se questionner. Des exercices tout bêtes. Ça a l'air parfois même infantile et c'est volontaire, elle fait renouer avec son enfance. Et c'est des petites astuces qui montrent qu'elle a une connaissance d'une profondeur sur les mécaniques de blocage justement et de comment on s'empêche en fait d'être créatif. Et moi, à la fin du premier spectacle que j'avais fait qui s'appelait Open Space, j'avais eu beaucoup, beaucoup de reconnaissance. Tout le monde m'avait dit c'est incroyable, c'est incroyable. Et ça m'avait inhibée. C'est-à-dire que j'étais tellement assaillie de compliments, je trouvais ça tellement incroyable que mon travail soit parlant pour les gens. J'étais abasourdie et puis j'ai eu un an ou deux de je ne saurais jamais reproduire ça, je ne pourrais jamais refaire un autre spectacle. J'ai tout mis, j'ai tout donné et j'ai eu une petite déprime. J'ai lu ce livre, j'ai fait les exercices jusqu'au bout et j'ai écrit deux autres spectacles depuis. Voilà.
Et elle m'a vraiment sauvé. Il a été lu et relu. Hein.
Ah, mais c'est prodigieux.
C'est un livre qui a vécu.
Ouais.
C'est toujours beau,
c'est
ça, les livres.
C'est un livre que je m'y remettrai si jamais je sens que je suis un peu bloquée.
Bon, bah, merci beaucoup, Mathilde Amet.
Je vous en prie.
On va essayer de libérer votre créativité. Merci beaucoup de nous avoir reçus.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Europe 1. De retour en studio et je rappelle que deux des pièces de Mathilde Amet sont jouées en ce moment, Le Banquet au Théâtre de Paris et Monsieur X avec Pierre Richard au Théâtre de l'Atelier. Et merci à Olivier Duval pour la prise de son. Restez là, les libraires de La Voix et Livre arrivent avec deux bonnes idées de lecture. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix et Livre.
Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix et Livre avec les professionnels du livre, les libraires. Salut les libraires. Christophe Daniel de la librairie La 25e Heure à Paris et Jérémy Banel, librairie La Martine à Paris aussi. Salut les libraires.
Salut Nicolas.
Salut Nicolas.
Et on commence avec vous, Christophe. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Qu'est-ce que vous tendez aux clients en disant achetez ça et lisez ça immédiatement?
Alors, j'ai commencé avec un livre extraordinaire d'un auteur hollandais qu'on avait découvert il y a quelques années avec Là-haut, tout est calme. Cet auteur s'appelle Gerbrand Becker. Et son nouveau livre s'appelle « Parce que les fleurs sont blanches ». C'est chez Grasset. Mm-hmm. Alors, Gerbrand Becker, il écrit des histoires qui ne sont pas très joyeuses. Et c'est le cas avec celui-ci. Mais dans cette tristesse, il y a une forme de douceur, de quiétude qui fait que ce n'est pas du tout plombant. Il y a une mélancolie. La mélancolie, il appelle ça le bon côté de la tristesse. Et c'est exactement ce qu'on ressent en lisant ce livre. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? On va suivre une famille, le père et ses trois enfants adolescents. Il y a les jumeaux Classe et Kiss.
Classe et Kiss.
Classe et Kiss, oui. Alors, La prononciation hollandaise, je ne la garantis pas. Donc, eux sont jumeaux, ils ont 16 ans. Et il y a Gerson qui, lui, est un peu plus jeune, à 13 ans. Donc, le père, Gerhard, et la mère est absente parce que la mère est partie, quand les jumeaux avaient une dizaine d'années, suivre un autre homme en Italie. Donc, la vie se passe dans un petit village hollandais avec des promenades. Ils aiment beaucoup aller se balader dans leur vieille guimbarde couleur morve, entre le bleu clair et le vert clair. Et voilà, cette vie se passe en plaisir simple jusqu'à un moment où leur vie va basculer parce que dans cette vieille guimbarde, ils vont avoir un accident. Et c'est surtout Gerson qui va être gravement blessé, il va être dans le coma et puis il va être aveugle. Et on va voir comment la vie va reprendre entre cet amour entre ses frères, l'amour paternel et puis les maladresses que le handicap de Gerson occasionne pour chacun. C'est bouleversant, c'est magnifique et Garbrandt Bakker a vraiment une écriture totalement envoûtante.
La tristesse douce, ça vous va bien ça? C'est un peu vous, Christophe Daniel. Vous nous rappelez le titre et l'auteur parce que alors là...
Alors, Garbrandt Bakker, Parce que les fleurs sont blanches, et c'est chez Grasset. Je cite aussi le nom du traducteur, en l'occurrence une traductrice, c'est Françoise Antoine.
Parfait. Jérémy Banel, c'est à vous. Tristesse douce aussi?
Tristesse douce, je ne suis pas tout à fait sûr. La tristesse d'un roman qui s'appelle, alors je vais bien détacher les mots, Rome en noir, ce qui donne effectivement, quand on lit un peu plus vite, roman noir. Mm-hmm. C'est bon, vous l'avez?
Ouais, d'accord.
Donc, comme dans tout bon roman noir, on commence par un meurtre. C'est l'assassinat en 1932 dans la banlieue de Lyon d'un militant fasciste italien, boxeur à ses heures perdues, ou l'inverse. Il est à la fois un peu les deux. Et cette histoire, à partir de là, donc on va suivre l'enquête policière en France, l'enquête policière en Italie, où évidemment les services secrets de Mussolini sont sur les dents, puisqu'il est hors de question de tuer l'un des leurs, surtout s'il a fait allégeance au régime. Donc ça, c'est la partie roman noir. Et pour le reste, Philippe Videlier, donc, qui est l'auteur, tresse autour de ça toute une histoire très romanesque, avec un style très particulier, du régime fasciste, de 1932 et un petit peu avant, jusqu'à la déclaration de guerre, avec un style très très alerte, très particulier. Moi, j'ai découvert, j'ai adoré, j'ai rarement lu des choses écrites de cette façon, comme ça. C'est à la fois très documenté, ça se lit tout seul, c'est plein d'une ironie grinçante, d'un côté fable qui va... à la fois bien avec cette histoire qui est terrifiante, la montée du fascisme, l'arrivée de la guerre, etc. Et à la fois, il restitue totalement le côté presque guignolesque de ce régime, avec toute sa pompe, etc. Et en faisant avancer les deux histoires, à la fois l'enquête sur cet assassinat et l'histoire du régime plus général, il tresse un portrait des années 30 qui est à la fois très agréable à lire, presque divertissant, j'oserais dire, et il donne un vrai moment d'histoire.
C'est un polar, quand même.
C'est pas tout à fait un polar. C'est plus...
C'est un roman noir.
C'est un roman noir, voilà, exactement, le mot est bien trouvé.
Mais c'est de la pure fiction, il s'inscrit dans l'histoire, mais c'est de la pure fiction.
Alors, je ne suis pas allé jusqu'à...
Il n'y a pas eu ce boxeur, etc.
Alors,
si
ça, pour le coup, je n'ai pas vérifié. D'accord. C'est ce que je me suis demandé, justement. Mais ça, ce serait le prétexte, on va dire, à tout le reste, qui est pour le coup très documenté.
Parfait. Vous nous rappelez le titre et l'auteur?
Rome en noir, de Philippe Videlier, aux éditions Gallimard.
Et le livre de Christophe Daniel, je rappelle, Parce que les fleurs sont blanches, de Garbrandt Bakker, chez Grasset. Merci beaucoup à tous les deux. Vous retrouvez ces livres à la librairie Lamartine chez Jérémy Banel et à la librairie La 25e Heure chez Christophe Daniel à Paris. Merci beaucoup à tous les deux. On part pour le rayon jeunesse maintenant avec Victor Delangle.
Il était une fois.
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 Dernier chapitre de La Voix et Livre, on retrouve Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Avec votre conseil littérature jeunesse comme chaque semaine, aujourd'hui vous nous présentez un roman intitulé Dagfried, je ne sais pas si c'est comme ça que c'est.
Oui, Dagfried, bien sûr.
Dagfried, des brioches sur les oreilles d'Agnès Mathieu Daudet et illustré par Olivier Talec. Oui, c'est toujours des titres impossibles.
Ah bah oui, c'est ma spécialité. C'est l'histoire donc de Dagfried, une petite fille viking, pas franchement satisfaite de sa condition. Son prénom ne lui plaît pas. Quand tu es fille de viking, on te laisse pousser les cheveux jusqu'à ce qu'on puisse faire des tresses ramassées sur les côtés, façon brioche sur les oreilles.
Princesse Leia.
Exactement. Elle trouve ça totalement ridicule. Elle, Dagfried, n'aime pas non plus la robe longue qu'elle doit porter toute la journée. Et en prime,
Elle doit pêcher et manger du poisson séché tous les jours. Ça non plus, elle n'aime pas ça. Vous l'avez compris, Dagfrid n'est pas une petite fille très heureuse.
Alors qu'est-ce qu'elle va faire pour essayer de changer tout ça ?
Alors elle décide de prendre le large pour essayer de voir s'il existe un endroit où on ne mange pas que du poisson séché toute la journée. Aidée de son grand frère, elle construit un bateau en cachette. Ça y est, elle est prête. Justine, Jeanne et Samuel vous lisent la suite.
Quand le bateau a été fini, il m'a regardé longuement dans les yeux. Enfin, comme il pouvait, parce qu'il a plein de cheveux et pas de tresses, et qu'avec le vent, on ne voyait plus ses yeux. Puis il m'a mis une main sur l'épaule et il m'a dit
« Dagfrid, ton peuple compte sur toi !»
Je ne savais pas trop pourquoi mon peuple comptait sur moi. Mon frère non plus, je pense. Alors je lui ai répondu
« Non, non, Odalric. Oui, il s'appelle Odalric. Nos parents n'ont aucun goût. Je pars parce que je déteste le poisson. »
Odalric m'a regardé dans les yeux à nouveau, sans les cheveux cette fois, parce que le vent avait tourné.
« Que la victoire soit avec toi !»
Après plusieurs jours donc à dériver sur sa coque de noix, Dagfrid voit enfin la terre ferme. Elle tombe sur un peuple de jeunes filles coiffées presque comme elle, pas de bol. Mais ces petites filles décident de tout dans leur société et en plus, elles élèvent et mangent des moutons. Et ça, Dagfrid, elle ne connaît pas encore, mais elle sent qu'elle va adorer.
Et c'est pour quelle catégorie d'âge ce livre ?
Alors, c'est ce qu'on appelle un premier roman, 40 pages à peine. C'est un texte vraiment idéal pour les enfants qui apprennent à lire, donc à partir de 6 ans, quand on arrive à peu près au CP.
Ah, donc c'est à lire tout seul plutôt ?
Ah bah oui, c'est vraiment oui, à lire d'accord. tout seul. Enfin, on peut le lire un peu avant, mais c'est vraiment parfait pour les enfants qui commencent à lire tout seul. C'est vraiment très marrant. La narration à la première personne avec ce ton désabusé est très bien senti, et puis superbement appuyé par les illustrations d'un maître en la matière, Olivier Talec. Lisez le livre, vous allez vous bidonner. Feuilletez juste le roman, vous allez aussi beaucoup rire.
Dagfrid, des brioches sur les oreilles, d'Agnès Mathieu Daudet et Olivier Talec. C'est à l'école des loisirs. En plus, vous vous êtes fait dédicacer le livre.
Eh oui, c'est Olivier Talec et Agnès Mathieu Daudet. Je les connais un petit peu, alors ils m'ont dédicacé ce livre très gentiment.
Merci Victor.
À la semaine prochaine.
Salut.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide. Merci à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, pour la réalisation et à Xavier Joly pour sa programmation musicale. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. À la semaine prochaine.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre.
Nicolas Carreau.